Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin de la science-fiction bien réelle, visite rare dans la toute nouvelle usine des cœurs Carmat, bijoux de technologie. Il faut 2 mois pour produire un cœur artificiel, ils sont toujours en phase de test aujourd'hui. Et quand le cœur n'y est plus, là c'est la majorité qui défaille, déboussolée par cette rentrée. Matinale spéciale sur France Inter ce matin.
Oui, le Premier ministre Édouard Philippe est l'invité du grand entretien aujourd'hui de 8h20 à 9h, vos questions 01 45 24 7000.
À la une également, Nicolas Sarkozy et les fausses factures de Big Malion. L'ancien président attend de savoir si la justice confirme son renvoi devant un tribunal. Le patron de Ryanair sur la sellette, assemblée générale de la compagnie aujourd'hui avant une nouvelle grève dans 8 jours. Quand le crime organisé se nourrit de mini tour Eiffel, démantèlement d'un gros réseau de vente de souvenirs illégaux. Et puis des primes pour faire avancer la parité dans le cinéma. Annonce sonnante et trébuchante de la ministre de la Culture aujourd'hui.
France Inter.
De battre, ces cœurs vont commencer. Les cœurs artificiels Carmat, implantés sur 10 patients. Pour l'instant, on en est toujours à la phase de test avant la production à grande échelle. Et ça y est, Carmat se lance. Des cœurs sont désormais fabriqués en usine. Véronique Julia a pu, et c'est exceptionnel, visiter ce site de Bois d'Arcy dans les Yvelines.
Alors là, on rentre dans la salle blanche. C'est ici qu'on fabrique les cœurs exactement.
C'est comme un grand laboratoire. Une vingtaine d'opérateurs s'y activent quotidiennement. Ici, les mesures d'hygiène sont drastiques. On travaille en combinaison stérile. Pour l'instant, pas plus de 5 cœurs sont fabriqués chaque mois. Ils servent aux tests et aux essais cliniques en cours. Il faut plus de 2 mois pour assembler les 400 pièces qui composent l'appareil. Stéphane Piat est le directeur général de Carmat.
Dedans, on a 2 pompes volumétriques. On a une carte électronique, de nombreux capteurs de pression et des capteurs ultrasons. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, une intelligence incroyable.
Dans l'usine, certaines étapes sont gérées par des robots, d'autres se font à la main. Julie Richier, technicienne, prépare par exemple un péricarde. C'est l'enveloppe d'un cœur de bœuf qui sera ensuite intégrée à l'appareil.
On doit le manipuler en faisant attention à ne pas faire de plis ni de trous. Oui, parce que c'est fragile. Je suis quand même bien consciente qu'il y a des gens au bout.
Bientôt, les process seront plus rapides, mais il n'y aura pas de sur-mesure pour chaque patient. Les produits qui sortiront de l'usine seront standardisés. Le cœur Carmat aurait une dimension compatible avec toute taille de cage thoracique. Le marché à venir, en tout cas, serait énorme. Stéphane Piat.
178 000 patients entre l'Europe et les États-Unis auraient besoin d'une transplantation pour 5 000 cœurs disponibles seulement. Il y a vraiment une différence entre le besoin et la solution disponible actuellement.
À terme, dans cette usine, Carmat envisage de produire jusqu'à 800 cœurs par an.
Carmat coté en bourse, l'usine des cœurs en images sur franceinter.fr. Et lui doit avoir le cœur bien accroché, déjà renvoyé devant la justice dans l'affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy saura ce matin si sa campagne de 2012 va lui valoir un procès pour cause de financement illégal. Il conteste la procédure comme 12 autres prévenus. La cour d'appel va donc trancher. Sarah Guibaudot.
Nicolas Sarkozy disait qu'il ignorait jusqu'au nom de la société Big Malion. L'enquête n'a en tout cas pas établi qu'il aurait validé ni même été informé des fausses factures et il n'est pas poursuivi pour cela. En revanche, il est renvoyé en correctionnel pour financement illégal de campagne, pour avoir explosé le plafond des dépenses, près de 43 millions d'euros dépensés au lieu des 22 millions autorisés. Le juge d'instruction Serge Tournaire soulignait que Nicolas Sarkozy était avocat de profession, qu'il avait 30 ans de carrière politique derrière lui, plus que quiconque. Il était supposé connaître, respecter et faire appliquer par ses équipes les dispositions légales, peut-on lire dans l'ordonnance de renvoi. Or, c'est bien le candidat et ses proches collaborateurs qui ont choisi en 2012 d'axer la campagne sur des meetings spectaculaires et dispendieux, poursuit le juge, alors même que les experts comptables avaient alerté à plusieurs reprises sur le dérapage inévitable. S'il perd ce matin, l'ancien président peut encore se pourvoir en cassation. L'enquête avait été rapide, moins de 2 ans. Les recours vont sans doute doubler la durée de la procédure avant même le procès.
Nicolas Sarkozy également mis en examen pour des soupçons de financement libyen de sa campagne précédente en 2007. L'affaire Benalla et son talent a noyé le poisson hier devant les sénateurs. Nicolas Hulot qui claque la porte, le départ annoncé de Gérard Collomb, les hésitations sur le prélèvement à la source ou encore les sorties spontanées et corrosives d'Emmanuel Macron, ça fait beaucoup pour une rentrée après une année de conquête de la majorité. Il y a comme un malaise désormais chez les députés. Karine Bécard.
Quand Richard Ferrand a été élu président de l'Assemblée nationale, 58 voix de députés de la majorité lui ont manqué. Même constat lors de l'élection du nouveau patron du groupe de La République En Marche. Ils ont été 47 à ne pas aller voter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, le reconnaît. Une partie de la majorité est démobilisée.
Quand vous êtes obligé pendant certains moments de pas voter à l'inverse de ce que vous pensez, mais en tout cas de faire des entorses à votre façon de penser personnelle, et bien à un moment, vous n'avez plus envie de jouer ce jeu-là, d'un peu scolaire, d'être dans la ligne du parti, quoi, du groupe.
En fait, depuis la rentrée, ils sont environ une trentaine de députés de la majorité à avoir quasiment disparu de l'Assemblée. Pour Isabelle Florenne, élue des Hauts-de-Seine, son parti, le Modem, doit jouer son rôle d'allié.
Je pense que c'est aussi à nous qui avons parfois un peu plus d'expérience d'expliquer qu'il faut se projeter et pas vivre les événements ou les tumultes internes de façon trop affective peut-être ou sensible.
Mais même les députés les plus macronistes sont touchés. « Je ne m'attendais pas à cette rentrée », explique l'un d'eux. « Comment a-t-on pu hésiter sur le prélèvement à la source ?» Et il poursuit « Si le président avait abandonné ce projet, pour moi, c'est simple ». C'était la fin du quinquennat.
Le malaise de la majorité, un sujet pour Édouard Philippe, invité exceptionnel de France Inter à partir de 8h20. C'est le pendant du pardon à la veuve de Maurice Audin. Emmanuel Macron s'apprêterait à faire un geste fort en direction des harkis. Selon l'opinion, le président l'annoncera en décembre, alors qu'une série de mesures symboliques seront présentées la semaine prochaine par la secrétaire d'État aux armées, avec un fonds de solidarité pour ces centaines de milliers de supplétifs et leurs descendants. La première sortie délicate de François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique, a rendez-vous dans les Pyrénées aujourd'hui pour parler ours. Il hérite de la réintroduction de deux plantigrades slovènes décidées au printemps dernier par Nicolas Hulot et qui fait hurler les bergers et les élus locaux qu'il va rencontrer.
Et décidément, les sommets européens ne sont vraiment pas des parties de plaisir.
Après des escalopes viennoises et 4 heures de disputes sur la question des migrants, les 28 en sont venus au Brexit en guise de digestif pour buter sur l'Irlande. Gros point de discorde entre Theresa May et les Européens. Bruxelles veut que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, inacceptable pour Londres, pour qui cela revient à créer une frontière entre les nations du Royaume. Frontière que nous traversons ce matin, direction Dublin, séjour d'Assemblée Générale là-bas chez Ryanair. La compagnie, marquée par les grèves et les annulations dans 8 jours, rebelote avec un préavis déposé dans 5 pays d'Europe. Ça commence à sentir le roussi pour son PDG, l'exubérant Michael O'Leary, 25 ans aux commandes. Son avenir sera-t-il compromis, Julien Lagache ?
Le verbe haut et le style rugueux de Michael O'Leary n'ont jamais souffert de contestation chez Ryanair en 25 ans. Mais l'accumulation des tensions sociales l'ont fragilisé à tel point que certains actionnaires appellent à ne pas le réélire directeur général, tout comme quelques syndicats de pilotes que le patron s'est malmené.
Je respecte les pilotes. Maintenant, ça ne veut pas dire que leur métier n'est pas facile. Et ils sont très bien payés pour ce travail facile. Nous vivons une époque où l'ordinateur fait l'essentiel du vol, mais ils sont très compétents. Après, sont-ils débordés ? Non.
Jamais consensuel, le volubile irlandais de 57 ans a toujours semé les polémiques au travers de son management offensif en quête de réduction des coûts, quitte à faire payer plus aux clients qu'il ne ménage pas toujours non plus.
Pour le pack premium à 30€, on vous donne la priorité coupe-fil et embarquement, un siège réservé, donc on s'occupe vraiment de vous. Je veux bien venir moi-même vous embrasser les fesses à votre départ, bien sûr.
Une communication mise à rude épreuve cette année par les annulations massives de vols et la grogne sociale avec un impact sur les performances de Ryanair. Reste à voir si l'inoxydable Michael O'Leary parvient malgré tout à garder la confiance des actionnaires. Dublin, Julien Lagache, RFI pour France Inter.
Dans le même genre, Donald Trump et ses saillies, Florence est l'un des ouragans les plus mouillés du point de vue de l'eau. Analyse pertinente du président américain qui est allé à la rencontre des sinistrés de Caroline du Sud pour leur promettre l'aide de Washington. Ils ont connu l'échec avant de rebondir. Alors que 50 000 entreprises font faillite chaque année en France, une cérémonie va récompenser les résurrections. Aujourd'hui, les Restart Awards en bon français, ou l'occasion de braquer les projecteurs sur des parcours atypiques, comme celui de Didier Roche, patron des restaurants dans le noir où les plats sont servis par des aveugles dans l'obscurité totale. Rencontre signée Hélène Philly.
On peut dire que les épreuves, Didier Roche en a connues. La première remonte à l'enfance, il perd la vue à 6 ans et demi.
Il faut rebondir et rebondir avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut aussi accompagner vos parents. Moi, je suis fils d'ouvrier. Et leur dire, voilà, certes, je suis différent, je suis désormais handicapé, Mais allez, je peux faire des choses.
Il crée sa première entreprise à 24 ans, Itac, spécialisée dans les biens et services pour aveugles. En 2004, son premier restaurant, dans le noir, ouvre ses portes à Paris. Un autre à Londres ensuite, à Barcelone. Et puis, il tente New York. Mais là, fiasco, il ferme au bout de 15 mois.
C'est qu'en fait, on a communiqué sur une date d'ouverture beaucoup trop tôt. Au lieu d'ouvrir la date dite, on a ouvert genre 3 mois après. Ce qui a été une pure catastrophe, parce qu'on a décalé des réservations par centaines toutes les semaines. Je pense qu'on a pêché par une communication et peut-être par orgueil quelque part.
Et il en a tiré les leçons.
Quand on échoue, soit on s'enterre en disant « bah tu vois, j'ai échoué, je suis mauvais », soit on se pose et c'est peut-être pas ce que je devais faire, peut-être je dois le faire autrement. Il faut juste en avoir la force. Ça se fait jamais avec le sourire quand on plante un projet. Mais je n'en ai plus peur.
Aujourd'hui, son groupe emploie une centaine de personnes et Didier Roche a encore des projets plein la tête.
Il est 8h11, Florence. Attention, démantèlement de grande ampleur.
Et quand on dit ça d'habitude, on parle de trafic de drogue ou de prostitution, pas de mini tour Eiffel. C'est pourtant dans les souvenirs que donnait le réseau que la police a fait tomber cette semaine, à cheval entre la Chine et le Gabon. 20 tonnes de mini tour Eiffel saisies, Emmanuel Leclerc.
Les enquêteurs ont surveillé au départ deux vendeurs à la sauvette au pied de la vraie tour Eiffel, un grand classique. Ils sont des dizaines chaque jour à proposer leurs souvenirs de la capitale, tous contrefaits, tous tombés du camion. Mais il y a eu des planques, des filatures et le jackpot policier au bout de plus de 2 mois d'enquête. D'abord, des intermédiaires gabonais très prudents mais qui ont fini par être filmés juste quelques secondes, le temps d'une poignée de main avec des grossistes chinois situés dans l'immense zone d'import-export asiatique d'Aubervilliers et de Clichy-la-Garenne près de Paris. Au total, 3 hangars ont été perquisitionnés, près de 150 mètres carrés chacun, sur 8 mètres de hauteur, des cavernes d'Ali Baba de la contrefaçon, raconte un enquêteur, et donc au milieu de centaines de cartons, des tonnes de petites tours Eiffel arrivées par container à Anvers en Belgique. Selon nos informations, les alliages et les peintures ne respectent en rien les normes européennes. Lors de leur descente en début de semaine, les policiers ont saisi également 15 000 euros de cash et 3 camionnettes avec 2 compteuses habillées qui signent le caractère hors taxe, hors norme et donc mafieux de ce trafic.
Quand Twitter censure un dessin de charbon, on y voit un imam et un prêtre qui tiennent chacun le sexe de l'autre et cette légende, les extrêmes se touchent. Marie Cabrette, figure historique de Charlie Hebdo, a vu son compte bloqué par le réseau pour cette image, une offense à Charbe, selon elle, assassinée en 2015 avec 7 camarades du journal.
Et pourquoi si peu de femmes derrière les caméras?
On n'a pas fini, hélas, de poser la question. Et pour en finir avec le sexisme au cinéma, le collectif 50-50 organise aujourd'hui les premières assises de la parité et de la diversité, avec plus de 800 acteurs à Paris. Et il y aura du concret, Philippe Randet.
Après l'image, place à l'action. L'image, c'était cette montée des marches inédites, 100% féminine, lors du dernier festival de Cannes. Pour l'action, ça se passe donc jusqu'à ce soir dans les bureaux du Centre National du Cinéma à Paris, avec des annonces concrètes, un système de bonus avant la fin de l'année pour les films dont les équipes seront exemplaires en termes de parité, la charte signée par les professionnels qui sera une condition d'attribution des aides du CNC, des annonces qui sont satisfaisantes pour Rebecca Zlotowski, la cofondatrice du collectif 50-50, qui est à l'initiative de ses premières assises sur la parité, le dit, le cinéma doit évoluer et vite.
Il y a beaucoup de femmes réalisatrices en France, on est entre 22-25%, c'est déjà considérable par rapport aux autres pays du monde entier. Maintenant, on est loin de la parité. Ça me semble moi aussi simple que de dire la pluie s'amouille et la guerre c'est mal. J'adorerais en fait qu'on propose des formes fabriquées par des hommes et des femmes qui ressemblent à la société dans laquelle je vis. On est un petit peu majoritaire dans la société française, je crois qu'on est à 52%. Il ne faut pas qu'on reste à 23% dans la fabrication du film, du cinéma.
Et autre annonce prévue aujourd'hui, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, veut impliquer les collectivités territoriales dans cette politique de parité dans le cinéma.
Et qui veut la veste d'Han Solo ou le chapeau d'Indiana Jones? Si vous êtes intéressé par ces accessoires d'hommes, il est encore le temps de prendre un train pour Londres. Encore faudra-t-il avoir les sous pour espérer gagner ces enchères organisées par le British Film Institute. La veste portée dans l'Empire Contre-Attaque pourrait partir à plus d'1 million d'euros. Très loin de l'univers des grosses productions hollywoodiennes, le Panthéon de Christophe Honoré au théâtre à Lausanne, avant de partir en tournée dans toute la France, le réalisateur des chansons d'amour redonne vie à 6 artistes qui l'ont marqué, Coltès, Hervé Guibert, Cyril Collard, entre autres. Là aussi, c'est une déclaration d'amour, Stéphane Capron.
C'est certainement l'œuvre la plus personnelle de Christophe Honoré. Il fait revivre sur scène les héros de ses 20 ans, ceux qui ont façonné l'artiste qu'il est devenu.
C'est en rien un biopic, c'est vraiment des figures rêvées, des figures imaginaires. C'est un faux groupe parce que c'est pas des gens qui se connaissaient énormément. Il y a quelques amitiés ou inimitiés d'ailleurs, Guibert Coltès. Il a fallu après faire advenir en fait quelque chose entre eux, une relation, une affection, des hostilités. Et donc tout le travail après en répétition a justement été de créer cette matière-là à partir de figures bien réelles qui sont effectivement ces artistes qui ont énormément compté pour moi.
Pour interpréter Hervé Guibert, Christophe Honoré a choisi Marina Foïs. Elle est incisive et drôle, un peu comme l'était le romancier.
Moi, la chose qui me plaît le plus, je crois, c'est ce mélange de trivialité et de pensée très large, très haute, quasi poétique. Guibert, il a un truc comme ça, un mélange qui frotte et que je trouve tellement beau. Et puis c'est vrai, il est paradoxal, il est violent, il est trash et en même temps c'est un sentimental.
Ce spectacle raconte les années SIDA, mais c'est aussi un geste d'amour envers de grands artistes qui ont marqué les années 80. Et Christophe Honoré parvient parfaitement à doser la nostalgie et l'humour à la façon d'un marivaudage entre plusieurs hommes.
Les Idoles à Lausanne, puis en France, en tournée à partir du mois d'octobre en région et à Paris ensuite. Enfin, un grand Lyon face à Manchester City hier soir. Première journée de la Ligue des Champions. Les Lyonnais ont battu les champions d'Angleterre 2-1 après un an d'absence en compétition européenne.
Merci Florence Paracuelos.